Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Nous sommes le mercredi 30 octobre en direct de 19h à 20h et vous pourrez réécouter cette émission demain de 9h à 10h et sur Spotify. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Sauf cette semaine, puisqu'aujourd'hui nous décidons de vous ouvrir les portes de la forêt des possibles, de celles et ceux qui la font. Je m'appelle Jeanne Ray et, chers auditeurs, si d'ordinaire nos invités forment les arbres de la forêt, ce soir découvrez les herbes folles en la personne de Félix Tédelin, de Mathieu Cheminal et de Marin Moffret qui nous rejoindra juste après. Salut les gars.
Bonsoir.
Salut Jeanne.
Du moi au nous et du nous au tout, vous le savez, c'est le credo de l'émission et ce soir, pour partir du moi, nous vous proposons l'écoute et la lecture de morceaux et de textes choisis qui ont fait écho dans les herbes folles que nous sommes et qui appellent à de nouveaux imaginaires. Ils nous permettent de nous représenter la société résiliente, créative et solidaire que nous souhaitons bâtir. Donc les amis, qui a envie de commencer à nous partager quelque chose ce soir ?
Eh bien, ce sera mon plaisir, Jeanne. Alors, le petit le poème en fait que je vais vous présenter, il a une petite histoire personnelle qui est un peu particulière. Alors, en fait, j'ai pas connu mon grand-père maternel qui est immigré espagnol en fait en Alsace, et donc c'est comme ça que ma famille a atterri en Alsace. En fait, ce grand-père paternel, il a travaillé à la construction notamment des pas de tir de fusées. Des diamants, donc c'est les ancêtres des fusées Ariane en Guyane, et donc c'est un peu de lui que je tire mon amour de l'espace, et en fait j'ai hérité d'un des recueils de poèmes d'un auteur que j'ai étudié par la suite et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Gustavo Adolfo Bécquer, donc c'est un auteur espagnol, et c'est un poème qui parle de la poésie et du fait qu'il y aura toujours de la poésie dans ce monde, donc j'ai décidé de vous le lire en espagnol, de vous en traduire un petit paragraphe, et puis on pourra en discuter. J'espère que cela vous siéra. Donc je commence, ça s'appelle Rima 4, donc de Gustavo Adolfo Bécquer. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego y oro a vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras en la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma, sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Voilà, donc c'est un poème qui explique que tant que beaucoup de choses, il y aura de la poésie, et j'ai décidé, donc ça marche par strophe de deux dans ce poème, et j'ai décidé de vous en traduire une qui est, je pense, qui me différencie un petit peu dans cette forêt des possibles de beaucoup de monde, qui parle de science en fait. Donc ces deux strophes, c'est tant que la science ne découvrira pas les sources de la vie, et que dans la mer ou dans le ciel il y a un abîme qui résiste au calcul, tant que l'homme avançant toujours ne sait pas où il marche, tant qu'il y aura un mystère pour l'homme, il y aura de la poésie. Et voilà, je vous laisse rebondir un petit peu là-dessus. Moi c'est quelque chose qui m'anime généralement, je pense que c'est quelque chose qui anime généralement la science, mais qui est un moteur général de l'humanité, en fait, la recherche de la découverte. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais écoute, moi je suis ravi que tu aies choisi ce poème parce que je connais ta passion pour la science et la vulgarisation scientifique, parce qu'on a eu la chance de faire un atelier de l'arbre ensemble. Et j'ai pas vraiment de réaction, si ce n'est que ça me met profondément en joie de te voir choisir une poésie en lien avec ce qui te passionne. Voilà.
Ouais. Ça me touche beaucoup.
C'est vrai, Félix, c'était un petit peu la nouvelle arme scientifique de l'équipe de La Forêt des Possibles. Donc, c'est super que tu aies choisi de nous partager ce poème lié aussi à ton histoire. Bel accent espagnol, du reste. J'imagine que tu as l'air très bilingue. Et oui, effectivement, le lien entre la poésie et la science, la poésie, c'est ce qui permet aussi d'expliquer l'inexplicable. Et c'est aussi souvent ce qui nous reste lorsque tout fait défaut. Et lorsque, face parfois aux nouvelles ou aux défaites qui nous inondent, face aux décisions gouvernementales ou à tout ce qui se passe dans le monde, ça peut être un peu un refuge. Donc merci beaucoup pour ce partage. Ce qui nous reste aussi, c'est effectivement la pop française. Ça, on ne pourra pas nous l'enlever. La poésie et la pop française, c'est deux choses, deux bastions. Et à ce titre, je crois que Mathieu, tu voulais nous passer une chanson de...
Oui, tout à fait, Jeanne. J'ai choisi, quand tu m'as demandé des textes ou des musiques qui m'inspiraient, il y en a une qui m'a toujours inspiré dans mon parcours. Et dans La Forêt des Possibles, on parle de trajectoire. Et cette musique, elle parle de trajectoire.
Est-ce que tu veux ne pas dire ce que c'est tout de suite et juste laisser aux auditeurs et auditrices la joie de la découvrir sans dire titre?
Eh bien, tout à fait. Je vous laisse la joie d'écouter cette musique qu'on connaît évidemment tous.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi si et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Thank you.
Et donc c'était Résiste de France Gall.
Merci Mathieu. Je reprends les mots de ma belle-mère qui dit qu'une journée passée sans écouter France Gall est une journée perdue. J'extrapole un peu, mais c'est à peu près ce
que je suis complètement d'accord. Et du coup, j'ajouterais effectivement, dans un monde où les problématiques écologiques et sociales sont pas toujours entendues, c'est déjà le titre de cette musique, Résiste. Je pense que parfois c'est un peu de la résistance ce qu'on fait aussi dans nos métiers. En tout cas moi dans mon métier, dans l'événementiel, pour engager les gens, pour les faire prendre conscience des aspects écologiques et sociaux de ce qu'on fait. Et voilà, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, parce que pour moi tout est question effectivement de trajectoire, et dans une trajectoire il y a beaucoup de questions qui se posent, et on en parle ici beaucoup. On écoute chaque semaine les invités parler de leur prise de conscience, de leur déclic, de leurs échecs, de leurs peurs, de leurs succès. Et voilà, je pense que c'est un cheminement, et c'est pour ça que j'ai choisi cette musique que j'adore.
Merci Mathieu. On a été rejoint par Marin Moffret qui arrive dans le studio. Salut Marin.
Bonsoir à toutes et tous.
Salut Marin.
Marin, une réaction vis-à-vis de France Gall?
Résiste prouve que tu existes. Je trouve que ça rentre dans la philosophie même de la forêt des possibles, que de chercher à résister en prenant la forêt comme on prend le maquis, et d'exister quand on invite chacun et chacune à prendre sa juste place.
Exactement.
Donc comme tu disais Mathieu, c'est tout à fait dans la philosophie de ce qu'on essaie de tisser de semaine en semaine.
Effectivement. Merci Mathieu pour ce partage qui est toujours bon, effectivement, de petit France Gall jamais perdu. Mathieu, il me semble que tu voulais aussi... peut-être, je ne sais pas s'il y a un lien avec cette chanson, mais nous lire un texte, ou en tout cas nous faire partager un texte choisi par toi.
Oui, exactement. Alors, ceux qui écoutent l'émission depuis quelques temps le savent aussi, j'ai une passion transfuge de classe, ou disons au moins que les sujets sociaux et sociétaux m'animent particulièrement, et j'ai voulu revenir sur, quand tu m'as demandé ce que je voulais lire, sur l'interview qu'on avait eue avec Anissa Bécouche de 6 générations, qui du coup rappelait qu'en France il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté, et c'était la première émission, je crois, que je co-animais avec Marin et avec Claire, et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai perçu, en tout cas dans le parcours d'Anissa, des choses similaires aux miennes, et du coup j'ai choisi Édouard Louis, qui est un auteur, tout comme Annie Ernaux, Didier Ribon, toutes ces personnes qui m'inspirent, qui viennent d'une classe sociale très pauvres, on peut le dire, qui ont atteint l'élite telle qu'on peut se la représenter en étant des écrivains, et qui racontent ce parcours et cet abandon, cette fuite de leur passé, qui représente pour eux quelque chose à la fois de douloureux, mais qui comment dire, par rapport à leur milieu d'arrivée, à la fois ils ont les codes sociaux qu'on leur a inculqués, et à la fois ils ont des besoins, enfin ils sont obligés d'apprendre tous les nouveaux codes sociaux de la classe dans laquelle ils arrivent. Donc j'ai choisi En finir avec Eddie Bellegueule, et je vais juste vous lire quelques passages. Son passé l'avait rattrapé, comme si, en dépit de ses efforts, il ne pouvait pas y échapper. Ce qu'elle ne comprenait pas, et donc c'est pour ça que ton père en parle pas de ça, de son voyage quand il vivait dans le sud, parce que quand c'est bizarre, c'est pas logique. Il dit qu'il faut tuer les bougnoules, et quand il vivait dans le midi, son meilleur copain, c'était un bougnoule. Je te dis ça parce que je comprends pas pourquoi ton père, il est raciste comme ça. Je vais vous en lire un autre. Je cherchais plutôt un passage sur l'homosexualité. C'était une femme souvent en colère. Elle protestait dès qu'elle en avait l'occasion. Toute la journée, elle proteste contre les hommes politiques, les réformes qui réduisent les aides sociales, contre le pouvoir qu'elle déteste au plus profond d'elle-même. Pourtant, ce pouvoir qu'elle déteste, elle l'appelle de ses vœux quand il s'agit de sévir. Sévir contre les Arabes, l'alcool et la drogue, les comportements sexuels qu'elle juge scandaleux. Elle dit souvent qu'il faudrait un peu d'ordre dans ce pays. Bon, tout ça pour vous dire que moi, ce qui m'a marqué dans l'histoire d'Édouard Louis, c'est... bon, finalement, Édouard Louis, il est homosexuel. Moi, je suis homosexuel aussi et je viens d'un milieu où mes parents étaient ouvriers et où, voilà, l'homosexualité, c'est pas facile à accepter. Moi, j'ai choisi de faire des études. Je suis le seul de ma famille à avoir fait des études. Et en fait, je me suis retrouvé beaucoup dans ce livre. Ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vrai que c'est très difficile à la fois de ne pas oublier d'où on vient et malheureusement, parfois, en ne voulant pas reproduire les schémas de certaines classes sociales pauvres, on est obligé de s'oublier un peu. Je ne sais pas si je suis très clair, je suis un peu ému, mais voilà. Donc, ce que je recommanderais de lire, c'est Annie Ernaux, La Place. En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, Retour à Reims de Didier Raybon.
Bien sûr. Et Eddie Bellegueule, j'ai pas lu moi cette. C'est quoi? C'est une figure un peu du cliché.
En fait, c'est autobiographique. C'est un roman autobiographique. Donc du coup, Eddie Bellegueule, c'est le personnage qui, en fait, il s'appelle Bellegueule, qui a un nom pas facile à porter déjà. Il est homo. Il vient d'un petit village dans ce petit village, il y a des ragots, les gens travaillent à l'usine, il y a de l'alcool. Enfin, on l'a vu dans certains reportages. Je pense par exemple, j'ai oublié le nom de ce reportage de l'homme politique, comment s'appelle-t-il? Mince. Bon.
Je dis que des conneries depuis que je suis arrivée dans l'émission sur ce genre de questions. Je vais laisser les autres prendre la place.
Il faut que tu lui donnes quelques idées parce que là, l'homme politique, un reportage.
Ouais, de gauche.
Gabriel Attal.
Non. François Ruffin.
Oui, ok.
Voilà, qui raconte très bien et qui va interviewer des classes populaires et qui montre un petit peu la réalité de ce qu'est de vivre avec 3 francs 6 sous à la fin du mois et les violences aussi que ça peut créer intrafamiliales donc c'est finalement fuir ce personnage, cette éducation avec parfois une incompréhension en fait de l'entourage familial. Mais moi voilà, personnellement j'ai toujours je savais que pour me sortir d'un milieu familial peu aisé, il fallait que je fasse des études et que je finisse par parfois avoir de grandes différences d'opinion avec mes parents.
Oui, bien sûr. Mais merci, c'est des écrits effectivement très structurants. J'en ai lu quelques-uns et de toute manière, dans La Forêt des Possibles, on met la lumière sur les projets qui sont d'initiatives un peu écologiques, mais aussi d'inclusion sociale. Et on sait très bien que l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Dans cette société qu'on essaie de bâtir ensemble. Je ne sais pas si vous aviez un mot à dire, les amis, sur cet extrait choisi par Mathieu.
Moi, j'ai pas une histoire aussi compliquée que la tienne, j'ai l'impression, mais ça résonne quand même pas mal en fait pour différentes raisons. La raison en fait elle est de nouveau liée à la science, donc je vais en reparler. C'est un peu, mais en fait moi mon prisme de vision d'éducation parce que j'ai choisi une éducation supérieure qui était tournée vers ça, il est très pragmatique et il manque de poésie en fait souvent et en fait je me retrouve régulièrement bloqué par le fait que je suis un peu matrixé par cette pensée-là. Et c'est quelque chose que je retrouve pas nécessairement chez les gens de ma famille, typiquement, qui ont pas cette façon de voir les choses, en fait. Et les deux sont tout à fait valables, mais elles sont très différentes. Ça correspond peut-être pas, mais en tout cas, enfin, ce que tu racontes, mais en tout cas, ça a fait écho à ce déracinement un peu voulu, quoi. Et en même temps qui est pas évident, j'avoue,
j'imagine. Oui, c'est ça, c'est une histoire de racines pour faire le parallèle avec l'arbre de la forêt des possibles.
Oui, l'arbre, revenons toujours à l'arbre. Marin, non?
Moi ça m'a évoqué un film
que je n'ai pas vu, mais dont j'ai lu les commentaires qui avaient été faits par sa protagoniste, qui s'appelle Au boulot, de François Ruffin. C'est une personne qui s'appelle Sarah Sadelman. Elle est chroniqueuse sur BFM TV et sur CNews. Et parfois, elle dit des choses qui sont un peu aberrantes, du style quand vous avez une angine, je comprends pas que vous alliez pas au travail, vous êtes désassisté, etc. Et en fait, François Ruffin, l'ayant entendu, lui a proposé d'aller travailler dans des poissonneries et d'aller travailler dans des usines en étant payé au SMIC quelques jours par semaine. Et il se trouve qu'elle a fait son mea culpa après avoir fait ces quelques jours d'usine, en disant que elle se rendait compte à quel point elle était complètement hors sol d'avoir jugé les gens comme ça. Et donc là, je suis en train de retrouver l'article où elle exprime ses opinions, et le temps que ça charge, moi ça m'évoque le cheminement inverse, dans le sens où j'ai étudié dans un lycée qui s'appelait Stanislas à Paris, qui fait souvent la une des journaux. Ça l'a encore fait la semaine dernière, notamment parce qu'une personne s'est fait exclure du lycée parce qu'elle portait un pull LGBT, pour faire un lien avec ce que tu disais. Et on était complètement matrixés par les 3 heures par soir de travail après la maison, le fait que avoir des grands-parents polytechniciens, ce qui est mon cas, c'est pas suffisant. Il faut avoir des parents polytechniciens, et voire même il faut avoir des parents qui sont majeurs de polytechnique, ce qui était le cas dans ma classe. J'avais 2 fils de majeurs de polytechnique dans ma classe, donc vous imaginez le niveau et la souffrance aussi que ça peut impliquer, parce qu'on demande à des élèves qui sont extrêmement jeunes d'être des bêtes de course, et ensuite de rentrer dans les meilleures écoles, d'avoir les meilleurs résultats, et puis finalement de s'oublier aussi un petit peu en chemin. Donc je pense que j'ai eu cette éducation qui est pas par mes parents, mais au moins par le lycée, qui peut être assez proche de cette fameuse Sarah Sadelman, qui a fini par dire: beaucoup de gens sont déconnectés comme moi. Et je vais vous lire quelques des extraits, en disant en gros, elle disait que ses impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Ça, c'était sa phrase qui avait choqué sur le coup. Et après avoir fait l'expérience, finalement elle finit par dire que c'est pas possible, qu'elle est complètement déconnectée, et qu'elle se permettrait plus jamais de juger les gens de cette façon-là, parce qu'elle-même, elle trouvait que c'était dur, alors même qu'elle est arrivée à faire ces travaux-là en étant en bonne santé. Mais alors, quand on a une angine, c'est juste absolument pas possible. Donc c'est sûr que la question du cheminement de classe, je trouve que, pour l'avoir fait un peu dans le sens inverse, c'est difficile, parce qu'on est toujours un peu en balancement. On vient de quelque part, on va dans une autre direction, et on peut avoir des codes un peu croisés qui parfois se retrouvent pas ou grésillent un peu. Donc voilà ce que ça m'évoque que de t'avoir entendu.
Merci Marin, et merci Mathieu et Félix. Je propose que, après ce thème, ma foi, d'une légèreté sans pareil, on s'écoute un morceau qui nous amènera peut-être un petit peu haut. Et puis à l'issue de ce morceau, je proposerai de lire un poème que j'aime beaucoup. On écoute Birds de Chassol.
Thank you.
comme toujours, il faut rentrer. Quitter les montagnes pour d'autres montagnes. Quitter les ancêtres pour d'autres ancêtres. Le même sang, la même pierre. Les lacets de goudron entre les forêts aussi profondes que les ravins qui les bordent. Comme toujours, il faut rentrer. Quitter les troupeaux pour d'autres troupeaux. Quitter une église pour une cathédrale, plus noire que les nuits d'ivresse sage que nous passons là-bas, dans l'espoir stupide de trouver, à l'ombre d'Eisahut, un peu de cette bienveillance naturelle que nous ne possédons plus qu'en bribes spontanées. Après une longue sieste dans l'herbe, sous les arbres, sans feuilles, quelqu'un a émis à voix haute l'hypothèse que nous forgeons tous en silence depuis quelque temps. Rester. Une voix douce a répondu, la main droite à peine levée sur des yeux embués d'alcool et de sommeil. Pourquoi pas ? Blotti dans mon coin, j'écoutais la conversation en imaginant que d'autres avant nous, d'autres de mon sang, d'autres de ma fureur, d'autres de mes silences qui ne ressemblent plus à du mépris qu'à de l'ardeur, d'autres ont vécu là. Ce que ça doit être, se lever chaque matin avec la poigne des rochers sur le torrent glacé. Nous n'étions pas encore partis et déjà la vraie question, à quand la prochaine fois ? Les enfants sont grands. Personne n'est vraiment malade. Il y a assez d'argent pour les chaussures solides, les livres par centaines et les voyages ponctuels en des plaines étrangères. Et encore, depuis le ventre d'Eisahut, les bords de mer ne sont que des liserons à la manche de la France. On voudrait vivre là, chaque jour comme ce dimanche. Nous répétons. Les enfants sont grands. Nous manquons d'amour solide et de passion soudaine. Alors pourquoi ne pas donner nos dernières forces à ces falaises qui nous soutiennent depuis plus de 100 ans ? Personne parmi nous n'a quelqu'un qui l'attend. Nous avons tous appris, plus ou moins récemment, que nous ne sommes pas assez forts pour vivre avec une âme qui nous aime et qu'on aimerait en retour de la même façon, avec ce que ça implique d'horaires précis auxquels il faut être rentré à la maison. Oui, c'est exactement ça. Quand Chloé a dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre ici ? Il y a du travail, il y a un toit assez large et des vallées tranquilles. » Immédiatement, je nous ai vus, à l'heure qu'il est, ce soir, de retour dans des appartements propres, écoutant les derniers messages sur le répondeur, esquissant des gestes raides, murmurant des paroles insupportables. Ça m'a comme qui dirait mis du sel dans les yeux et de l'orage dans le cœur. Bien sûr que ça finira de cette manière. Quelques-uns dans la montagne, avec des sourires très doux et la certitude que le reste ne vaut pas la peine, puisque nous ne sommes pas plus féroces que les falaises qui nous maintiennent. En attendant d'avoir cet ultime courage de ne ressembler qu'à nous-mêmes, comme toujours, il faut rentrer. Quitter les piscines vides, ranger les cendriers. Sur le chemin du retour, ne reste que la lumière qui traverse en diagonale le visage endormi de la France et les soleils superbes qui s'écrasent en bouquets sur les falaises d'Eisahut où nous aurions voulu rester. Eisahut de Cécile Coulon.
Eh bien,
c'est...
Bah déjà, le texte est magnifique, mais la lecture était parfaite.
Ah, merci. C'est donc... vos réactions après... Après ce texte, ce poème que j'adore d'Eisahut. Eisahut est un village de la Drôme. Cécile Coulon est une poétesse qui a écrit ce recueil au cours du confinement. Et je trouvais que ça allait bien après l'écoute du morceau de Chassol et tous ces oiseaux en boucle. C'est un village que je connaissais pas, que j'ai découvert avec ce texte, sur lequel je suis tombée par hasard au cours d'un week-end il y a pas longtemps. Sur la route, il y a eu le panneau Eisahut qui m'a sauté aux yeux, donc je suis allée voir un petit peu. J'adore ce poème parce que, enfin, je sais pas si j'en parle d'abord, vous d'abord. Je suis encore un peu dans le village, dans ma tête là. Pour moi, ce poème, il est très beau, non seulement parce qu'il m'évoque tout un tas de moments passés avec des êtres chers à la campagne, ces moments où tu t'isoles, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a que ça qui compte. On pourrait complètement continuer à faire ça, ces 48 heures qu'on vient de passer dans la Drôme, on pourrait vivre de ça. Pour moi, ce texte, il parle pas mal aussi d'espèces de fantasmes, un peu de cette envie qu'on peut avoir de quitter la ville, de revenir à quelque chose de très simple. Les falaises, le travail, les chaussures solides, les livres. Pour moi, ça parle vraiment de ce ressenti d'être près des siens, dans la nature, et aussi de cette projection qu'on en fait depuis la ville. je trouve aussi qu'il y a un peu quelque chose de notre génération qui parle des relations, qui parle du fait d'avoir du mal à se trouver, d'être un peu seul. Ça parle aussi d'un arbre, d'être au pied d'un arbre sans feuilles. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait bien dans la lecture ici.
Moi, ça me fait penser au livre que je souhaitais vous présenter. Donc peut-être que je vais laisser d'abord Mathieu répondre et puis je pourrais faire le lien avec pourquoi ça m'a fait penser à ça.
Moi, ça m'évoque tout simplement le besoin de se ressourcer, de se recentrer. Le petit village de campagne, c'est un très beau poème. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un petit village de campagne aussi, du coup. Simple, avec beaucoup de nature. Et c'est vrai que parfois, ça me manque beaucoup des grands espaces. Le calme, et en fait, pas besoin de plus, et finalement c'est méditatif, voilà, je trouve.
Tout à fait. Félix ?
Oui, moi ça me fait beaucoup écho à mes vacances quand j'étais petit. On allait souvent dans un petit village du coup en Espagne, et c'était ça en fait, c'était la nature et un peu cette isolation, je sais pas comment dire, poétique, méditative quoi. Et c'est quelque chose dont je manque pas mal, et j'ai l'impression, moi qui ai grandi en ville, que c'est quelque chose que j'ai découvert et que je cherche quand je peux, mais qui est facile à trouver à Marseille, mais pas naturel pour quelqu'un, enfin en tout cas pour moi, tu vois. Et ce poème il est magnifique, et il me donne envie de retourner dans ces petits villages d'Espagne.
Ouais, pour moi même, même si c'est un vrai village de la Drôme, il y a quelque chose de... Eizaüt, c'est un peu un nom très... tu vois, ça pourrait être un faux village. Ça pourrait, ça pourrait être un concept juste qui désigne l'endroit où tu te sens bien dans la nature avec tes proches.
C'est vrai, mais si tu veux un nom de village espagnol où tu pourrais penser que c'est un faux village, celui dont je te parlais, c'est Villavieja de Yeltes. Et du coup, comme c'est bien paumé et bien long... ça peut devenir n'importe quel village français comme Eizaüt, enfin n'importe quel village espagnol comme Eizaüt pourrait être n'importe quel village français. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose d'englobant dans ce poème.
Marin, alors ça t'a fait penser à des trucs ? Tu voulais nous partager des textes ?
Tu nous avais, en préparant l'émission, invité à réfléchir à des œuvres qu'on souhaitait partager. Alors j'en ai plusieurs en tête, mais je vais en parler que d'une. Cet été, j'ai lu un livre qui s'appelle Siddhartha, d'un auteur allemand qui s'appelle Hermann Hesse. Pourquoi est-ce que je l'ai lu ? Parce que moi-même, je suis dans un processus d'écriture d'un livre et que je cherchais des inspirations sur le fait de partager un cheminement initiatique. Et Hermann Hesse, au départ, il présentait son cheminement initiatique personnel. C'est un auteur libre allemand du début du XXe siècle. De par la trajectoire de l'histoire et notamment de celle que son pays a pris au début du XXe siècle, s'est retrouvé à certains moments dans des moments pacifistes où il se retrouvait, puis d'autres avec des montées de fascisme où il se retrouvait plus du tout. Et au début, il racontait des choses très terre-à-terre de sa vie, et puis ensuite, il est arrivé sur finalement le fait de construire des métaphores filées. Et c'est en ça que ton poème finalement me faisait réfléchir sur la métaphore, parce que dans Siddhartha, c'est l'histoire d'une sorte de pèlerin voyageur dans une période hindoue un peu fantasmée qui abandonne son père dans la recherche d'une élévation spirituelle, et où finalement il donne beaucoup de sens au petit village, aux rivières, aux forêts, aux rochers. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'écho à ce que tu disais. Et donc il abandonne son père en disant qu'il trouve que son père est trop commerçant et que lui, il pense que l'élévation spirituelle va au-delà du consumérisme et va au-delà de la frénésie des villes. Donc il devient un pèlerin sans argent, quoi. Et à un moment, il rencontre une femme qui lui fait découvrir l'amour et qui lui fait découvrir que peut-être que la vérité intrinsèque du monde ne se trouve pas dans la transcendance à laquelle on aspire, mais finalement dans l'immanence des choses immédiates. Et donc, c'est-à-dire dans le chant des oiseaux, dans l'amour, dans ce qui est vécu tout de suite. Et donc, au début, c'est une sorte de vie carpe diem. Et donc, lui, il passe de l'aspiration à quelque chose d'impalpable, à quelque chose qui est très, pour le coup, immédiat. Puis progressivement, finalement, en fait, il s'empâte un peu dans cette ville-là. Et à mesure qu'il goûte les choses, bah, il s'enfonce dans une sorte de confort, de luxe. Et il devient lui-même un commerçant. Et il a lui-même des enfants. Et ses enfants l'abandonnent lui-même. Et donc à ce moment-là, il se dit, mais attendez, c'est pas possible, j'ai passé ma vie entière à chercher l'élévation, et en fait, je suis comme le père que j'ai quitté. Et moi aussi, finalement, je suis devenu un commerçant alors que j'étais contre la luxure. Moi aussi, j'ai eu un enfant qui m'abandonne, et j'ai abandonné mon père, et mon enfant me donne aucune leçon, et aucune remarque, et aucune explication, mais j'ai fait exactement la même chose. Et finalement, il est retrouvé par un de ses amis du tout début qui l'invite à laisser couler et à s'adonner au flot de la rivière. Je trouve que c'est... Donc, en termes de métaphore filée de ce qu'on retrouve dans le poème que tu nous as lu, et dans Siddhartha, on a cette espèce de passage des éléments les uns après les autres. Après, de Hermann Hesse, il y a un autre livre que j'ai lu après qui s'appelle Narcisse et Goldmund, que j'aime encore plus. Mais on n'a pas le temps entier pendant cette émission de pouvoir tout exposer. Mais voilà, je vous invite à lire ce livre parce que je trouve qu'il rentre bien avec des réflexions un peu intemporelles sur la place qu'on veut prendre, sur la question de la transmission entre un père et un fils. Et j'imagine aussi entre une mère et une fille. Il pose la question de ce que c'est que l'élévation, et finalement, est-ce que tout ne se situe pas dans le chemin plus que dans la quête ?
Waouh ! Effectivement, et puis bon, pour continuer ce que tu viens de dire, Marin qui est souvent quand même la voix aussi de cette émission, t'es un peu le père pour moi, tu m'as transmis ce micro, tu me l'as mis entre les mains. On va parler un petit peu de ce qu'est la forêt des possibles, qui est donc l'arbre qui abrite un petit peu l'émission et tout un tas d'autres choses dont tu vas nous parler. Merci pour ces partages. Vous l'avez compris ce soir, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, on est sur un format un petit peu étrange, un petit peu à la marge de la trame qui vous est normalement proposée. On est peut-être moins sur une forêt que sur une jungle des possibles ce soir. Aussi, avant de d'écouter Marin, on va vous passer ce morceau pour penser un peu à la jungle qui est avec nous ce soir.
Jungle Bugle.
Get down, 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 Jungle Boogie, down with the boogie. Jungle Boogie, get it up. Jungle Boogie, down with the boogie. Jungle Boogie, get it up. Jungle Boogie, get up with the boogie. Jungle Boogie, get up with the get down. Jungle Boogie, down with the boogie. Jungle Boogie. Around. This is absurd. I refuse to jungle boogie. Whoa. No, I said I will not jungle boogie. No, no jungle boogie. I can't jungle boogie. Jungle boogie.
Yeah, when you get down.
Jungle boogie. I can jungle boogie.
In the jungle.
Jungle boogie.
Get down, get down. With the boogie.
Get it, I'm talking about that. Jump, boogie. Get up, let's go. Ah, I
je vous ai présenté une version un peu particulière de Jungle Boogie ce soir. C'est la version des Muppets en fait. C'est la version des Muppets et je l'ai choisie parce que c'est un de mes profs qui me l'a conseillé, un de mes profs de radiation, donc rien à voir, qui me l'avait conseillé à l'époque parce qu'il y a un petit solo de basse dedans qui est très sympa que je voulais vous faire découvrir ce soir. Voilà, donc je sais pas quelle est votre sensibilité par rapport à ce genre de choses, mais j'espère que vous avez apprécié.
Sensibilité très grande pour ma part, merci Félix pour ce partage. Vous êtes dans cette jungle des possibles, non, vous êtes bien sur l'émission de la forêt des possibles, à ce micro Marin, tu es un peu un des initiateurs de ce qu'on appelle la forêt des possibles, mm-hmm. qui abrite cette émission comme je le disais, en plus d'être mon père radiophonique désormais.
Toujours plus.
Dans le petit quart d'heure qui nous est imparti, est-ce que ce serait pas l'occasion d'ouvrir un peu les portes de ce qu'est la forêt des possibles? Où est-ce que vous en êtes, du moi ou nous? Est-ce que tu as envie de nous rappeler un petit peu ce que c'est que la forêt?
Ouais, je vous propose qu'on fasse un peu par effet de... On va se renvoyer la balle, que je vous fasse pas un monologue. La forêt des possibles, elle est née à un moment de questionnement de société intense, qui était la période des gilets jaunes. Moi, à cette époque-là, j'étais lobby chez Danone à vendre des bouteilles d'eau. Et je devais vendre ces bouteilles d'eau en plastique pour défendre les intérêts des actionnaires pendant que j'analysais la crise sociale des gilets jaunes et le rapport du GIEC. Donc le niveau de dissonance cognitive était absolument monstrueux. Et finalement, la grande question qui était celle de l'époque et que je trouve être l'une des plus intéressantes des questions politiques de ces dernières années, c'est de savoir... comment on concilie fin du monde et fin du mois. Et ça, c'est tout l'enjeu de la forêt des possibles. Sauf que quand on a dit ça, bah, c'est tellement énorme parce qu'il y a des questions qui sont très intimes, il y a des questions qui sont collectives, il y a des questions qui sont territoriales, il y a des questions qui sont internationales, il y a des questions qui sont complètement de l'ordre du système et surtout, tout est croisé. D'où cette fameuse idée du moi au nous et du nous au tout. C'est de savoir comment est-ce qu'on va réussir à se dépatouiller dans cette gigantesque question pour apporter une réponse qui soit un peu plus simple.
Et donc la métaphore de la forêt avec les mini-herbes, les très gros arbres centenaires et tout ce système qui doit fonctionner ensemble.
Ouais, d'où il y a une métaphore de l'arbre, mais en fait l'idée c'est de pouvoir remonter les échelles. Et la première question c'est de savoir finalement comment on embarque les gens. Parce que quand on écoute les uns les autres, on va souvent, moi j'étais en service civique à Félix Piat, pas très loin d'ici, l'écologie ça peut paraître loin. On va nous dire j'ai trop chaud l'été, j'ai trop froid l'hiver, j'arrive pas à finir mes fins de mois, je dois m'occuper de mes enfants. Donc l'écologie c'est pas ma priorité. Pourtant quand on écoute ces questions, bah en fait tout ça c'est des questions de cadre de vie, c'est des questions d'environnement. Donc c'est des questions qui ont trait à l'environnement et à l'écologie. Mais l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à les exprimer pour à la fois répondre à ce qu'on nous met sous les yeux de façon immédiate avec une grille de lecture écolo. Et donc la première chose qu'on a créé, enfin c'est pas la première mais c'est la première proposition, c'est un atelier qui s'appelle l'atelier de la forêt des possibles, qui est aujourd'hui disponible sur Hello Asso grâce à Félix et on en reparlera aussi en fin d'émission, et en fait qui nous invite à faire le point sur notre écologie intérieure, sur une approche tête-corps-cœur. Et donc pour ça on utilise l'image d'un arbre, aussi simplement que ça. Donc si jamais vous voulez vous projeter dans ce que c'est, imaginez un arbre et dites-vous que la sève de cet arbre c'est là où c'est votre niveau d'énergie du jour. Les racines de cet arbre, c'est là d'où vous venez. On a beaucoup parlé de trajectoire, notamment tout à l'heure avec Mathieu. Le tronc, c'est la manière dont vous êtes équilibré ou pas. Est-ce que vous arrivez à payer vos factures? Est-ce que vous arrivez à payer le loyer? Est-ce que vous avez un travail qui est rémunérateur et qui est digne? L'écorce de l'arbre, c'est ce dont vous protégez. Est-ce que vous protégez de certaines personnes? Est-ce que vous protégez d'une situation particulière? Est-ce que vous sentez pas en sécurité dans votre logement, par exemple? Les graines, ce sont vos rêves, ces choses que vous voulez faire pousser, ces petites choses que vous avez au fond de vous et vous avez envie de pouvoir les voir s'étendre. Et les fruits, c'est les projets qui ont poussé. Donc en fait, cet atelier, il se fait en groupe et il donne des conversations qui sont extrêmement denses. Mathieu, Félix, vous l'avez testé, Jeanne, je t'inviterai parce qu'on va bientôt pouvoir le lancer. Et en fait, l'idée de cette première phase, c'est de savoir ce qui compte pour chacun et chacune. Quels sont nos besoins et quelles sont nos aspirations? Et une fois qu'on sait ça, bah on peut avoir une proposition écologique sur mesure. Et c'est là où on passe d'échelle, du moi vers le nous. Vers qui on se redirige? Et je vous pose la question. On se redirige vers les gens qu'on reçoit à la radio. toute la semaine. C'est pour ça aussi, là, toutes les semaines, on dit, bah, on donne la parole aux acteurs, aux actrices transition écologique, et on vous invite, vous aussi, à vous engager. Mais en fait, ça permet de poser tout un tas d'acteurs, d'actrices qui œuvrent au quotidien pour faire de Marseille une ville résiliente. Et nous, on les cartographie, on dit qu'ils forment la forêt, ces acteurs-là. Personne n'est capable de répondre à toutes les questions. Jeanne, toi, tu ne travailles pas sur les questions alimentaires. Tu travailles sur des enjeux de culture et tu travailles sur des enjeux de gestion de flux de déchets liés à la culture. Donc, quand nous, on entend des besoins, eh ben, on va pouvoir rediriger vers la réserve des arts quand c'est pertinent par rapport aux besoins de la personne qui nous parle. Donc, ça permet comme ça de faire un lien. Et encore une fois, dans une approche qui fasse sens pour chacun. C'est-à-dire, on ne va pas faire une écologie de loin, un bobo, truc qui est hors sol. C'est ton besoin ou ton aspiration connectée avec les acteurs du territoire. Et une fois qu'on a fait ça, bah, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que ces acteurs ils collaborent ensemble. C'est bien de les mettre en valeur, mais est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils puissent aller plus loin? Et en fait, toute cette cartographie, en disant ils forment la forêt, déjà, ça projette un univers. Une forêt, tout le monde sait ce que c'est. Et on a bien conscience que quand on a déjà vu des forêts d'arbres qui sont quadrillées tout le long, c'est une biodiversité proche du zéro. Une maladie, tous les arbres meurent. On a besoin d'avoir des petits buissons, des très grands arbres, des arbres intermédiaires, et puis ensuite des feuilles mortes qui vont maintenir le mucus et puis la fraîcheur dans le sol. On a besoin de tous les petits champignons, on a besoin du réseau mycélium où tous ces nutriments s'échangent. On a besoin de la canopée qui va permettre d'avoir de l'ombre pour pouvoir maintenir l'équilibre et notamment avoir l'évapotranspiration des forêts. Enfin, tout ça, c'est un écosystème. Donc déjà, on propose un imaginaire où on dit... D'où que vous veniez, vous avez votre place à prendre. Mais surtout, c'est une forme de cartographie. On a cette image de l'arbre qui nous permet d'identifier précisément ce sur quoi chacun travaille. Et ensuite, à partir de cette cartographie, on arrive à pouvoir poser des chaînes de valeur communes en disant, bah tiens, là, vous avez vachement, au vu de ce que vous nous avez dit, vous avez intérêt à travailler ensemble. Et vous avez intérêt à aller plus loin. Donc là, on est arrivé sur une façon de connecter les gens vers des personnes, vers des structures, ces structures, comment elles collaborent ensemble. Et si on veut continuer à remonter les échelles, la question suivante, c'est de savoir, bah, ok, maintenant qu'on arrive à faire ça sur un prototype marseillais, il faudrait s'étendre partout. Mais l'avantage d'une forêt, c'est que c'est universel. C'est pas du tout l'apanage de la France. Donc on peut avoir la forêt des possibles de Marseille, et puis celle de Aix, puis celle d'Aubagne, puis celle de Martigues, et puis celle de Nîmes, et puis celle de Arles. Et puis pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait aux frontières de la région sud ? On peut aller sur celle de Bordeaux, et puis sur celle de Lyon, et puis sur celle de Paris, puis sur celle de Bruxelles. Puis pourquoi on s'arrêterait aux frontières de l'Europe? On pourrait aller encore et encore plus loin. Et comme ça, on aurait une façon de pouvoir identifier, cartographier, rediriger de la ressource, des besoins citoyens, des dynamiques de territoire, la ressource qui se trouve sur les territoires. Ici, à Marseille, on importe l'eau, on importe l'énergie, on importe la nourriture. Et ce qu'on exporte, c'est ce qui vient via le port, ou le travail de la deuxième métropole de France. Donc c'est des échanges géopolitiques qui existent entre territoires. Sauf qu'aujourd'hui, on est complètement incapable de savoir rediriger des échanges à grande échelle quand on parle de géopolitique, parce que c'est toujours des enjeux de confrontation. Sauf que, où est-ce qu'on va aller? On va vers un monde où la ressource va se contraindre. On va avoir moins d'eau, moins d'énergie, moins d'alimentation, moins de toute forme de ressources. Donc il va falloir qu'on apprenne à gérer cette contraction-là. Si on la pilote par le haut, sans qu'elle fasse sens avec les besoins des gens, soit on va subir tout ce qui arrive, et dans ces cas-là, l'expérience de vie se questionne. Est-ce que ça vaut encore la peine de vivre un monde comme ça? Ou alors, on va finir avec des émeutes. Donc, on a intérêt à reconnecter ces échelles-là. Et donc, l'idée finale, c'est de savoir quel est l'horizon politique qu'on se donne. Quelle est la trajectoire? C'est quoi l'horizon? C'est quoi l'imaginaire? Qu'est-ce qui nous donne encore envie, alors qu'il va falloir faire avec moins? Et c'est là où on arrive sur l'arbre des imaginaires, qui est le dernier outil, qui est aujourd'hui un Wikipédia, une sorte d'encyclopédie en ligne, vous pouvez chercher sur Internet, qui met en lien des milliers de ressources, des travaux, des pistes de solutions, des œuvres d'art autour de l'allégorie d'un arbre, et en fait qui construisent un système. Mais à terme, ce qu'on aimerait pouvoir faire de cet arbre, c'est un espace de démocratie participative continue. C'est que tout ce qui remonte des ateliers, on vienne le loger dans l'arbre, et qu'on arrive à restituer le tronc commun de ce qui est partagé. Que vous soyez d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, de la gauche, de la droite, si pour peu que ça ait encore une valeur que de parler de ces choses-là, on a quand même un tronc commun. On a besoin d'eau, on a besoin d'être en sécurité, on a besoin d'être dans des bonnes relations avec les autres autour de nous, on a besoin de manger. Ça, c'est quand même un corpus. Et c'est quand même bien de pouvoir à un moment le restituer, de dire on a ces intérêts qu'on partage. Et après, ça peut se faire avec la diversité des racines, qui sont la diversité des origines de chacun. On en parlait tout à l'heure avec les trajectoires différentes dont Mathieu nous présentait d'une façon très émouvante de sa lecture et aussi de nos aspirations, c'est-à-dire une pluralité de branches professionnelles ou de fruits de nos travaux. Donc la forêt des possibles, si je la restitue, c'est comment on concilie fin du monde et fin du mois, et quand on remonte les échelles, c'est comment on embarque les gens, vers qui on les redirige, comment ces structures collaborent ensemble, comment elles s'étendent au-delà de leur territoire et dans quel horizon politique elles vont.
Ok, merci Marin. Donc ce qu'on comprend, c'est que la forêt des possibles, c'est un outil du territoire qui permet tout un tas de choses à différentes échelles, comme dans une petite forêt. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un petit peu, si vous écoutez cette émission et si vous avez envie de vivre un peu cette introspection par l'atelier de l'arbre, vous pouvez faire appel à nous. Vous pouvez aussi, en tant qu'entreprise, association, groupe, peu importe, faire appel à ces ressources. Faites-vous cartographier. Si vous êtes porteur, porteuse d'une initiative qui permet un peu de changer les choses et de nourrir cette forêt, vous pouvez tout à fait contacter l'émission pour parler à ce micro, mais aussi apparaître sur cette cartographie dont tu parlais. Et puis, tout un tas de nouvelles initiatives qui méritent aussi de...
Bah, si je peux rebondir, il y a deux niveaux. Déjà, Félix, qui est aujourd'hui en régie, a mis en ligne un Hello Asso sur lequel on peut s'inscrire. Et je te donnerai la parole juste après, Félix. On donnera ça à toute fin. Et donc, vous pouvez tester l'atelier pour vous, pour faire le point sur votre écologie personnelle. Et ça, je vous invite à le tester, parce qu'une fois qu'on teste, on comprend. On comprend ce que c'est que cette allégorie. Je peux comprendre là, moi, que par rapport à tout ce que je vous ai présenté, vous avez dit, c'est quand même un peu lourd ce qu'il nous a fait, là, c'est un gros pavé. Mais une fois que vous l'avez testé, vous comprenez ce que ça signifie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en fait, tout ça, c'est un cheminement. L'image d'une... Si jamais vous prenez le métro, vous en foutez de savoir où chacun va quand il prend les transports en commun. La seule chose que vous voyez, c'est qu'il y a des arrêts partout qui se connectent à certains endroits, et vous allez d'un point A à un point B. Et parfois, vous avez une jonction quelque part, vous allez transitionner. Mais savoir ce que votre voisin fait et par où il est passé, où est-ce qu'il arrive, vous en foutez. Bah, les enjeux de transition écologique, c'est la même chose. Chacun a besoin d'un accompagnement qui se fasse sens pour lui, parce que chacun part d'un endroit différent et chacun va arriver à un endroit différent. C'était encore une fois ces enjeux de trajectoire. La forêt des possibles, elle permet ces accompagnements personnalisés. Elle permet d'accompagner vous en tant que personne, vos collaborateurs, votre structure, la place qu'elle prend sur le territoire, la façon dont le territoire se coordonne, la façon dont il coordonne ses rapports avec les autres. Et finalement, c'est qu'est-ce qui fait sens pour moi à ce moment-là? Et donc ensuite, on a tout un tas d'accompagnements sur ça.
Et sur ce chemin, vous pourrez relire Édouard Louis, Gustavo Adolfo Becker, Herman Hesse, Cécile Coulon et écouter aussi tous les artistes dont on a passé les morceaux ce soir. Merci à tous les trois d'avoir prêté vos références peut-être qu'on peut terminer sur les références un petit peu à l'Oasso, les appels.
Absolument. Alors du coup, effectivement, on a le Hello Asso de Graines de Récit, qui est l'association qui gère la forêt des possibles, notamment administrativement. Donc si vous cherchez Graines de Récit dans Hello Asso, vous allez trouver les ateliers de la forêt des possibles. Je pense que vous pouvez même trouver directement via Atelier de la forêt des possibles et vous inscrire sur les créneaux du mois de novembre. Voilà, il y en a 5 ce mois-ci. Il y en a essentiellement le week-end, mais aussi en semaine. Donc il y a des possibilités pour tout le monde. Le prix est libre. Et voilà, vous pourrez contribuer, simplement découvrir la forêt via ça. Et je tiens aussi à annoncer rapidement, mais Marin n'est pas au courant, donc je vais le surprendre, qu'on a un site internet, forêtdespossibles.fr, qui est pour l'instant en construction, donc il y a juste la page de site en construction, mais revenez d'ici lundi et il devrait commencer à s'étoffer. Voilà.
Wow, Marin, une réaction devant cette nouvelle?
D'habitude, les forêts, ça pousse surtout au printemps, mais cette fois-ci, là, on a un petit peu un changement de saison et cet automne est particulièrement fructueux.
Le jardin d'hiver de la forêt des possibles. Merci à tous les trois. C'était un format un petit peu exceptionnel. On fera ça d'autres fois. Merci en tout cas à tous les éditeurs, les auditrices. Et puis, bonne soirée.
Et merci à toi, Jeanne.
Merci, Jeanne.
Tu as pris à bras-le-corps cette proposition de faire une animation inédite pour ta toute première animation en chef. Surtout que je m'étais engagé à arriver un peu plus tôt et que comme c'est le marathon sur le projet, je suis arrivé en cours de route et je trouve que tu t'es débrouillé comme une chef.
Et merci Jeanne, moi j'ai fait la poule mouillée, donc je te remercie très fort d'avoir pris tout ça, c'était génial.
Pas du tout, c'était super, breloquant, mais très agréable pour ma part, et merci en tout cas. J'ai dit merci trois fois, je pense que c'est la fin.
Et voilà, et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Amine Kassassi, qui était le candidat dans le 13-14 pour devenir député à Marseille. Il a 21 ans, il a créé son association qui s'appelle Conscience, et il viendra nous parler d'écologie populaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, bonne soirée sur La Foire des Possibles.
Bonne soirée.